pour introduire notre méditation, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5. Galates chapitre 5, et nous lirons à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Il y a un autre petit texte que je vous invite aussi à lire, Romains chapitre 16, et tout simplement le verset 16, qui dit ceci: « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. » Que l'Éternel bénisse sa parole.
Eh bien, je pense que vous avez écouté cette parole, Romains 16, verset 16. Alors, pour une fois, nous allons bouger, et je vous invite à vous saluer les uns les autres et à vous dire bonjour. Nous sommes encore en début d'année, et il est bien de se saluer et de se proposer la paix à chacun. Le texte que Bernard nous a lu tout à l'heure parle des fruits de l'esprit. Ce que je vous propose ce matin, c'est de nous arrêter sur un fruit que nous ne mettons pas souvent en valeur. Vous savez que nous sommes en période électorale, vous l'avez entendu à travers la télévision, à travers la radio. Et nous entendons parfois des propos, disons, démagogiques, violents parfois même, en tout cas irrespectueux. Je crois que c'est Coluche qui, lorsqu'il s'est présenté à la présidence de la République, disait « Avant, la France était divisée en deux, mais maintenant elle est pliée en quatre. » Et puis, nous avions la joie d'avoir le triple A. Et avant, en écoutant Coluche, on disait « Ah, 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 ah !» Aujourd'hui, on dit « Ah, ah !» Et demain, peut-être « Ah !» Si bien que de ce contexte, eh bien, nous sentons des tensions. Et chacun se rejette la responsabilité. C'est à cause de vous. Il est temps de revenir à la raison. Alors je vous propose effectivement de revenir à un texte qui se trouve dans Tite 3, versets 1 à 2. Tite 3, versets 1 à 2. L'apôtre Paul nous dit ceci. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne calomnier de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Et j'ai sous les yeux quelques différentes traductions. Par exemple, dans la Bible annotée, de ne médire de personne sur le verset 2, de n'être point querelleur, d'être modéré, montrant une entière douceur envers tous les hommes. Darby, qui est plus littéral, dit ceci, toujours à propos du verset 2, de n'injurier personne, de n'être pas querelleur, modéré, montrant toute douceur envers tous les hommes. Vous l'avez compris, ce que je souhaiterais parler ce matin, c'est de la modération. Hein, on n'aime pas être modéré aujourd'hui dans notre monde. J'ai une définition sur la modération que nous trouvons dans le dictionnaire. Voici ce qu'il est dit. Retenue qui porte à garder en toute chose une certaine mesure. User de modération. Au sens figuré, le fait de modérer, d'adoucir, modération d'une peine, modération de taxe. C'est pas d'actualité actuellement. Modérer veut dire éloigner de tout excès. Vous l'avez compris, donc le chrétien est appelé à apporter de la modération dans ce monde de plus en plus extrême. À avoir un esprit modéré, un esprit de douceur. Le verbe modérer implique la notion de diminuer, de tempérer, de se contenir. Or, nous sommes dans ce monde où, effectivement, les gens ont de plus en plus de mal à se contenir et deviennent complètement irrespectueux vis-à-vis des autres. Alors, oui, nous pouvons avoir, c'est vrai, des convictions fortes. Ce que je crois, c'est que nous avons, effectivement, une conviction forte, une conviction dans notre cœur. Tout comme, par exemple, Abraham dans Romains 4, versets 18 à 20, versets 18 à 21, espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'une grande nation conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Abraham a eu la conviction que malgré son âge, que malgré l'âge de son épouse, eh bien, il aurait une descendance et il serait père d'une grande nation. Contre toute attente, il n'a point douté. Forte conviction donc de la part d'Abraham. Et je crois que nous pouvons avoir de fortes convictions, bien au contraire. Ce que les gens attendent, c'est que nous ayons vraiment une ferme conviction. Premièrement, que Jésus nous a sauvés. Il nous a donné sa grâce. Il vous a donné sa grâce. Il m'a donné son amour. Ça, c'est une conviction profonde, une assurance. Parce qu'il a engagé sa personne. Parce qu'il a engagé sa vie pour moi, il a promis qu'il nous sauvera et il le réalisera. Il a promis également qu'il reviendrait un jour. Ah, aujourd'hui, parler du retour de Jésus, mais attendez, depuis le temps qu'on l'attend, il n'est pas encore là. Jésus reviendra, c'est sa promesse. Et il préparera une demeure pour chacun d'entre nous. C'est ma conviction, c'est la conviction des premiers chrétiens. Maranatha, Jésus revient. Alors nous pouvons être sûrs de notre foi, la proclamer même avec zèle. Certes, avec force, bien entendu. Avec force de conviction, en manifestant justement l'ensemble des fruits de l'esprit. Or, la conviction de notre foi implique le respect d'autrui. C'est ma foi et je ne veux pas y déroger. Autant nous croyons que Jésus a été le seul nom qui a été donné pour sauver le monde. Acte 4, verset 12. Acte 4 et verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. c'est l'Évangile, c'est la vérité. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour sauver le monde. Nous le croyons, nous le vivons, et nous avons l'amour de cette vérité. Cette vérité qui est non pas un dogme, non pas un ensemble de concepts, mais bien une personne, la personne de Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour me sauver, qui a sacrifié sa vie pour moi. Une personne qui m'a promis qu'elle m'aimait. C'est ce qu'a commencé à comprendre Saul de Tarse au moment de sa conversion. Saul de Tarse, lui, le théologien, lui, le chef religieux, lui qui mettait femmes, enfants, hommes en prison, lui qui a assisté au meurtre d'Étienne et qui certainement s'en est réjoui, le fanatique, l'extrémiste. Il a commencé à comprendre effectivement que finalement cette voie n'était pas la bonne. Il deviendra l'un des plus grands apôtres de tous les temps. Notre évangile est un évangile dynamique, c'est de la dynamite. Force de conviction, force d'assurance en Jésus-Christ. Mais en aucune manière, cet évangile ne s'imposera aux hommes. Il se propose et il frappe à la porte de notre cœur. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Il n'est pas dit, si quelqu'un entend frapper à la porte, la laisse fermer et je la fracasse pour entrer dans son cœur. Non, c'est un évangile de douceur. Alors c'est vrai que c'est un évangile de puissance qui peut-être ce matin frappe à la porte de notre cœur. Me pose la question, où est-ce que j'en suis? Où en es-tu? Que fais-tu? Si quelqu'un recherche vraiment le Seigneur, eh bien, je crois qu'il le trouvera. J'aime ce texte qui dit, « Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. » C'est mon expérience, c'est ma vie, et c'est la vie de certainement beaucoup d'entre vous. Et peut-être que quelqu'un ce matin s'est dit en son cœur, « Seigneur, existes-tu ? » Alors, oui, si tu cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Mais notre foi laisse l'homme libre. Nous sommes des êtres libres. Cette foi est tellement forte qu'elle ne s'imposera pas, ni par des propos violents, ni par de la violence. Sinon, nous renions ce que Jésus a vécu, ses fortes convictions dans le respect d'autrui. J'en veux pour preuve l'histoire du jeune homme riche. Et nous allons demander à Bernard de nous lire ce texte très rapidement dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19, versets 26, 16 à 26.
Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. »
C'est une figure attachante que ce jeune homme riche. Ce jeune homme se pose la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Il vient voir Jésus en toute humilité. Au verset 17, et à partir du verset 16, un homme s'approcha et dit à Jésus, « bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» On imagine cet homme qui possédait tout ce que l'on peut espérer, à savoir la jeunesse, plus comme moi, à savoir la richesse, pas comme moi, à savoir la santé, je passe, à savoir, il était à l'écoute du maître, il était humble. Et pourtant, ce jeune homme sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa démarche. Il n'est pas heureux, il est inquiet même. Il est agité en pensant à la vie éternelle. Il vient près de Jésus, on peut dire même vraiment plein de respect, « Bon maître !» Il se croyait certainement capable de pouvoir découvrir la vie éternelle. Et ce jeune homme fait une grave erreur. Regardez le verset 16. Un homme s'approcha de Jésus. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» De bon pour avoir la vie éternelle. Et Jésus, lui, va lui répondre d'une manière directe. Il oublie que nous n'avons rien à faire pour avoir la vie éternelle. Ce n'est pas ce que je vais faire. Ce n'est pas parce que je suis bon que je vais avoir la vie éternelle. C'est une grâce, grâce qui se perd dans nos cœurs et qui s'invite dans le cœur de l'humanité, dans tous les cœurs. Nous pouvons penser à ce jeune homme riche et nous pouvons aussi penser au brigand sur la croix. Sur la croix, ce brigand qui était certainement un homme qui a fait beaucoup de mal. Et pourtant, il reconnaît Jésus au dernier moment comme son maître et seigneur. Et il reçoit le don de la grâce. Oh, il n'a pas eu le temps de faire du bien, certainement. Et s'il avait eu l'occasion de descendre de la croix, ayant compris cette grâce, il aurait certainement fait du bien. Mais là, pour l'instant, il est bloqué. Eh bien, cet homme, jeune homme riche, lui, il a tout. C'était même un chef spirituel, nous est-il dit dans Luc. Donc, pas n'importe qui, un théologien, un homme écouté. Le Seigneur nous dit, verset 17, « Aucun homme n'est bon et digne de recevoir la vie éternelle. Aucun !» Il lui dit simplement, « Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Et nous avons le décalogue qui est décrit. Où en veut venir Jésus ? Que veut-il dire ? Mais j'ai observé tout cela. J'ai observé tous les commandements. Je suis un homme pieux. Alors, rappelons-nous simplement le contexte. Cet homme, on l'a dit, est un chef religieux. Il est dans un contexte spirituel fort. Il est sincère dans sa demande, semble-t-il. Alors Jésus va lui dire, eh bien voilà, tu as observé tout cela, mais va encore plus loin. Jésus le prend tel qu'il est, là où il est, dans le contexte où il est, religieux. Il le respecte en cela. Et maintenant il dit, la signification de la loi, elle est plus loin. Il nous recommande d'accomplir une action qui prouverait que son parfait amour pour Dieu et pour les hommes se réalise, à savoir, va, vends tout tes biens. Oula, où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Va, vends tout tes biens. Est-ce que cela veut dire que parce que nous avons des richesses, nous devons tout vendre? Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas ce que Jésus veut dire, tout simplement. Mais il l'interpelle, il nous appelle, il nous demande de changer de sens. Et je crois qu'on pourrait le dire particulièrement par rapport à la société actuelle. Le problème de ce jeune homme, c'est la cupidité. Toujours avoir plus pour soi. Et je crois que c'est l'un des maux de notre société et peut-être même notre mot. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout vendre, pas du tout. Mais Jésus nous interpelle sur la cupidité et interpelle aujourd'hui particulièrement la société sur sa cupidité. Il y a de plus en plus de gens qui amassent de l'argent et il y a de plus en plus de pauvres. C'est le résultat de la cupidité. Alors oui, Jésus m'interpelle et me dit, dans mon cœur, où en es-tu? Où vas-tu? Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Mais revenons à notre récit, et surtout à cette idée essentielle. Nous sommes invités à interpeller le monde, à évangéliser le monde. C'est notre mission. C'est notre programme électoral, l'élection du salut. Tout comme Jésus, interpellant ce jeune homme riche, nous sommes appelés à aimer le monde, non pas ce qu'il fait, mais à aimer les hommes. Eh oui, à aimer tous les hommes sans exception de personne. Tous. Vous savez, on est dans un monde qui nous invite à nous monter les uns contre les autres, à nous diviser les uns contre les autres. C'est à cause d'un tel, c'est à cause de telles personnes, des étrangers qui prennent notre travail, etc., etc. Nous sommes invités à nous diviser. Or, Jésus nous a interpellés en disant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Est-ce que nous nous aimons tellement au point d'aimer les autres? Est-ce que nous sommes prêts à faire cette démarche en Jésus-Christ? Alors montrer effectivement que le Seigneur est venu aussi pour eux. Le Seigneur frappe à la porte de leur cœur. Le Seigneur souhaite cheminer avec eux, avec moi. C'est la vie qu'il est proposée, la vie éternelle. Alors oui, nous pouvons témoigner avec force de conviction. Croyez-vous que Jésus est venu aussi pour les autres? Force de conviction, mais respect avec autrui. Alors j'aimerais justement vous dire le programme que je vous propose au cours de cette année et que nous trouvons dans la revue Adventiste. Et j'ai bien aimé ces textes et ces principes. Le premier principe du chrétien, agir dans l'amour de Dieu. Les chrétiens croient que Dieu est la source de tout amour et sont donc appelés pour témoigner à vivre une vie d'amour et à aimer leur prochain comme eux-mêmes. Premier principe. Il y en a d'autres, mais je vais passer quelques-uns. Troisième principe, les vertus chrétiennes. Les chrétiens sont appelés à faire preuve d'intégrité. Je crois que c'est particulièrement d'actualité. De charité, de compassion et d'humilité. Et surtout à surmonter toute arrogance, tout mépris et tout sentiment de supériorité. Rejeter aussi toute violence. Les chrétiens sont appelés à rejeter toute forme de violence, y compris psychologique ou sociale. Ainsi que tout abus de pouvoir dans leur témoignage. Ils condamnent eux-mêmes la violence, les discriminations injustes et la répression par toute autorité religieuse ou séculière, y compris la violation ou destruction des lieux de culte, de symboles et de textes sacrés. C'est encore particulièrement d'actualité aujourd'hui. Autre point, respecter tous les hommes. Les chrétiens reconnaissent que l'Évangile a le double rôle de remettre en question et d'enrichir les cultures. Même si l'Évangile dénonce certains aspects culturels, les chrétiens doivent respecter tout homme. Ils sont aussi appelés à discerner dans leur propre culture les éléments que l'Évangile dénonce. Enfin, un dernier point, et il y en a d'autres, bien entendu, je vous invite à les lire dans la revue Adventiste. Renoncer aux diffamations. La parole des chrétiens doit être sincère et respectueuse. Ils doivent écouter afin de découvrir et comprendre les croyances et les pratiques des autres et être à même d'apprécier et de reconnaître ce que celles-ci contiennent de juste et de bon. Tout commentaire ou jugement critique devrait être fait dans un esprit de respect mutuel en prenant garde de ne pas diffamer les autres sensibilités religieuses. Or, nous sentons effectivement dans notre monde ces tensions de plus en plus importantes, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit aussi dans le domaine religieux. Des hommes et des femmes sont persécutés à travers le monde parce qu'ils sont chrétiens. J'aimerais lire un dernier texte, enfin, qui se trouve dans Jacques, chapitre 3, et à partir du verset 17. Au contraire, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, douce, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans duplicité et sans hypocrisie. Darby, plus littéral, mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Alors, oui, dans notre monde, eh bien, c'est notre programme électoral que je vous propose. De vivre cet évangile éternel avec force, de conviction, avec non pas fanatisme ni extrémisme, mais au contraire avec joie, sérénité. C'est notre programme, c'est notre conviction. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.